www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
J'avais une question avant que vous, effectivement, vous enchaîniez avec la poursuite de ces convergences de lutte, mais donner l'occasion de la rencontre entre les habitants et les personnes qui sont justement dans ces bunkers. Je pense que déjà ça, c'est déjà énorme, c'est déjà un gros travail. Est-ce que vous avez observé que des gens qui sont venus, peut-être en se disant « Non, mais moi, finalement, ces gens-là, ils sont pour moi a priori suspects ou je ne sais pas », et qui se sont dit « Mais en fait, maintenant, je me rends tellement plus compte, maintenant, j'ai compris qu'il y avait effectivement un humain là derrière, dans une situation terrible, que, dont je n'aimerais pour rien au monde partager la condition, et que ces personnes-là sont dans ces conditions. » Je veux dire, est-ce que vous êtes aperçu que des gens vraiment de... d'une certaine manière de bonne foi, était tout simplement victime de cette espèce de mur, de cette barrière, de cet enfumage de désinformation. Ouais. Au moment des thés, des rencontres.
Bah, peut-être je peux répondre à ça, parce que moi j'étais de l'autre côté avec les personnes en exil, puisque j'étais squatteur à ce moment-là, au foyer des têtes. Et du coup, bah, ouais, au début, les gens... Bah, on n'avait aucune autre solution à part lutter, mais on ne savait pas comment faire. Et quand même, il y a le peur de l'État. Et bah, on dit toujours, tu n'as pas de droit ici. Du coup, tu peux rien faire quand tu n'as rien. Quoi. Et quand il y en a tous ces collectifs-là qui sont venus, il y avait des doutes au début. Comment ça va se passer? On craint quoi? Et tout, mais après, le verre était plein, quoi, tu vois. On peut pas rester comme ça, quoi, sans rien dire, sans montrer aux gens. Parce que là, quand on parle du bunker, les gens, ils peuvent pas comprendre exactement comment ça se passe dedans. Seulement le temps où ils passent quelques mois dedans, là, ils peuvent peut-être comprendre. Mais le temps qu'ils sont dehors, ils peuvent pas comprendre exactement, quoi. Et... c'est parti spontanément pour de vrai. Les gens ils ont essayé de montrer cet état, quoi, que il y a des liens qui peuvent se créer, on peut faire beaucoup de choses si on soit ensemble, quoi. Si on est tout seul, on peut rien faire, quoi, tu vois.
Oui, parce qu'il faut le rappeler que, évidemment, les personnes, vous qui étiez dans les bunkers, ne pouviez pas amener un visiteur. C'est quelque chose qui était interdit. Et d'ailleurs, des journalistes également ont été éconduits, des personnes qui voulaient justement faire des reportages. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'autorisations qui n'ont pas été données, justement, pour garder ce truc au secret, finalement.
Oui, bien sûr, mais au début, même l'expulsion des têtes vers les bunkers, parce qu'il y avait les bunkers avant, quoi, les têtes, pendant quelques années quand même. Et après, il y avait quand même un pourcentage de ces gens-là qui étaient mis dans un foyer, le foyer d'État. Et du jour au lendemain, ils étaient juste convoqués au bureau de directeur. Et même avant de partir vers ce rendez-vous-là avec le directeur, il y avait la police juste devant les chambres des gens pour les faire sortir et les mettre dans des bunkers, quoi. Moi, pour du vrai, je ne sais pas comment c'était fait l'appel pour toutes les associations qui sont venues, qui ont soutenu ce mouvement-là. Mais je ne sais pas comment c'est fait à ce moment-là, mais c'était vraiment génial. Et
un petit miracle dont on va continuer de parler.
Ça, peut-être qu'il faut contextualiser. Donc là, on parle de l'occupation du Gritti, l'expulsion musclée des têtes qui s'en est suivie l'occupation du Gritti pendant l'été 2015. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu une rencontre entre les habitants des têtes expulsés et des soutiens. Je pense comment ça s'est fait. En fait, ça revient d'une montée en puissance de la lutte qu'il y a eu pendant tout le printemps 2015 via plusieurs choses. Mais je pense qu'il faut quand même rendre à Stop Bunker une grande place là-dedans, parce qu'il y avait ces personnes qui avaient pris la parole, qui habitaient dans les bunkers, qui ont commencé à mener cette lutte, qui ont ramené du monde. Il y a eu d'autres épisodes très marquants, comme le renvoi de Ayop, où une manifestation sauvage a fini à la Favra pour faire un parloir sauvage avec Ayop pendant qu'il était enfermé. Et c'était un mouvement victorieux. Ça, c'était tout pendant le printemps 2015. Où en fait on en est arrivé avec le Parlement genevois avait voté une motion pour fermer les bunkers, ce qu'ils n'ont évidemment pas fait, mais voilà, mais enfin il y avait quand même un rapport de force qui s'est fait, et les gens sont rencontrés, les collectifs sont formés, et en fait à ce moment-là arrive l'été 2015, il me semble, faut me corriger, mais il y a un ordre d'expulsion de 80 personnes, quelque chose comme ça. Ouais. Des tats qui vont être des personnes visées, les personnes qui sont dans les mauvais papiers, on leur dit maintenant vous dégagez du jour au lendemain au bunker. Et puis c'est ça que tu disais, Ash.
En fait, les gens ils avaient un rendez-vous avec le directeur, mais ils étaient surpris le matin qu'il y a la police qui est venue pour les mettre dans des bunkers, quoi, tu vois. Avant ça, ils ne savent pas qu'ils vont être logés dans des bancs.
Déplacés. On va quand même rappeler que le centre des TAT n'est pas non plus... On s'y est rendu. Les conditions aux TAT étaient quand même déjà bien pas top, quoi. Bien indignes, je trouve, dans le sens où il y avait vraiment... Enfin, on sentait que c'était laissé, quasiment certains trucs laissés à l'abandon. En tout cas, que c'était déjà là. Parce que comme tu l'as dit, H... les TAT, ça existe depuis un moment, et il y a eu plusieurs incendies, pour le moins troubles, pour le moins suspects, qui ont déjà émaillé ce foyer-là, et que les conditions y étaient déjà déplorables, je veux dire. Voilà, juste pour dire que c'était pas non plus, c'était pas les vacances aux TAT, à Vernier.
Je veux juste, il y a une intervention du public, mais vu qu'on peut pas masquer les voix en direct, je transmets, mais aussi ce truc de dire... les personnes, elles habitent depuis 2-3 ans dans les chambres. Elles avaient créé aussi des relations. Effectivement, les TAT, c'est déplorable comme endroit. Mais je veux dire, il y avait des solidarités, des relations, des amitiés, une sensation un peu de... Ouais, des affaires, des objets, des meubles, des habits, tout ça. Et que du jour au lendemain, avec, comme il dit H, à 8h du matin, la police qui débarque et puis qui dit, en fait, vous devez partir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas possible... à faire, quoi.
Mais ça va pas se passer comme prévu.
Non.
Exactement. Puisque Grutli.
Oui. Puisque les gens ont la haine et une haine plus que légitime, qui ramène aussi beaucoup de soutien de l'extérieur dans le foyer des TAT. Hein. Ça commence à une sorte de rassemblement au sein.
Et ça, c'est nos bunkers
En plus, voilà. Ouais. Aussi, ce qui est dit, c'est que là, de nouveau, intention du public, pour les personnes qui nous écoutent, c'est aussi de dire que c'était aussi une période c'était le début du Ramadan, le deuxième jour du Ramadan, voilà. Les souvenirs sont très précis, 2 ans après. C'était le deuxième jour du Ramadan, et du coup, ça a aussi une implication supplémentaire de violence quand on expulse dans un moment où en fait c'est pas le moment, il y a aucun moment de bon moment d'expulser, voilà, évidemment, mais il y a des moments particuliers qui sont importants et où les personnes elles se sont pas retrouvées en fait avec les conditions nécessaires pour pouvoir vivre ce moment-là comme elles devraient pouvoir le vivre, quoi. Mais plein d'énergie et de motivation et de fâche et de haine et tout ça, la manifestation descend en ville. Et là, la police tremble, les murs aussi, l'État aussi, le SPIS aussi. Et nous, on est trop heureuses et heureux. Et puis on marche et puis on finit par rentrer dans le Grutli, qui est devenu ensuite pendant un mois... après le faubourg, un mois supplémentaire. Ouais,
le théâtre du Grutli, qui est donc au centre-ville, parce que les TAT, donc Vernier, c'est la banlieue de Genève, et il y a cette manifestation sauvage qui parle des gens qui sont expulsés par la police, qui part en cortège de je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais c'était pas massif, mais il y avait quand même du monde, quoi, ça avait de la gueule. Elle arrive, il y a quelqu'un qui veut me dire
des périphéries, hop.
Et qui arrive en plein centre-ville. Voilà. C'est en plein centre-ville.
Comment réagit le théâtre du Grutli?
Après, peut-être, je vais juste dire quelque chose. Comme tu as dit, les conditions au TAT, elles ne sont pas au top. Et en plus, elles renvoient les gens encore vers les bancaires. Ça montre juste que l'hospice ou l'État, c'est la même chose. Leur but de dire non aux migrants, quoi, tu vois. C'est juste ça, quoi.
Complètement. Ouais, et puis d'insister là-dessus. Hein. Ouais. Alors, donc, on se retrouve au Grutli. Le Grutli... ou finit par ouvrir ses portes, d'une certaine manière, contraint, forcé. Mm-hmm. Non, quand même, je crois qu'il y a eu quand même un communiqué aux deux des gens du Grutli qui ont dit on est quand même d'une certaine manière solidaire. Enfin, voilà, ça s'est passé comment là-bas? avec le Grutli, je veux dire, ça, alors, d'une certaine manière, ça s'est passé.
Ouais, ce dont je me souviens, c'est que le Grutli a toléré l'occupation. Semble, ouais, les gens sont rentrés, ils ont dit voilà, bah, en fait, on est 80 personnes à la rue, plus tout leur soutien. L'État nous met dehors, on va pas aller dans les bunkers parce que c'est dégueulasse. Et maintenant, on est là. Et le Grutli a toléré, a dit donc, il y a eu des rapports compliqués, des bisbis, quand il faudra faire l'histoire de ce mouvement, on rentrera dedans entre la ville de Genève et le canton de Genève, où voilà, on sait qu'en gros, le canton. Et appelait au téléphone la ville de Genève qui était propriétaire des locaux, sauf erreur, pour lui demander quand est-ce qu'il pourrait évacuer avec la police, mais la ville de Genève n'a pas voulu dans des rapports de force qu'il y avait à ce moment-là, ce qui a fait que l'occupation a pu tenir. Et ça a été un mouvement je ne sais pas très bien quel mot utiliser, mais vraiment, il y avait des gens de toutes parts qui convergeaient. Enfin, si on était à Genève à ce moment-là et qu'on s'intéressait un peu aux luttes, ou même pas, ou des gens qui ne s'intéressaient pas du tout aux luttes, mais qui débarquaient et qui on faisait la cuisine sur les marches du Grutli. Après, on partait en manif sauvage. Le soir, il y avait une assemblée. Et ce n'était pas toujours simple. Il y avait des fêtes, il y avait...
C'était un peu nuit debout le jour et avant, d'une certaine manière, pour situer un petit peu le truc. Mais
je pense que nuit debout, c'est beaucoup inspiré de ce
qui s'est passé. Exactement. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir tous les jours d'arriver à fournir à manger à toutes ces personnes-là. C'est une organisation, toute cette logistique et le fait effectivement d'arriver à communiquer. Tout ça sans jamais mettre à ce que tout le monde se sente le bienvenu quand toutes les personnes qui pouvaient y déambuler soient justement les bienvenus et puis qu'elles puissent rencontrer ces personnes. Et effectivement, je pense que là, c'est tout à fait inédit. Pour la première fois, peut-être, en tout cas pour Genève, on avait des conditions, au bout du compte, qui permettaient la rencontre entre des personnes qui étaient en exil et les personnes, les habitants, les résidents de Genève.
Est-ce que peut-être est-ce qu'on pourrait passer, il y avait donc à ce moment-là, il y avait les médias qui sont énormément intéressés au mouvement. Oui. Il y avait notamment une émission d'une autre radio qui s'appelait qui allait interviewer des personnes et qui parlait des participants à ce mouvement, qui disent un peu qu'est-ce qui s'y passe et qui donne une description. Et voilà, c'est une interview d'archives, peut-être qu'on pourrait passer et qui donne un esprit du moment. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, je voulais introduire ça aussi. Trop bien.
On y va. Parfait. C'est parti.
Ça se vit comment ?
Je suis trop content. Je suis trop content pour le soutien des associations. Ça n'est jamais arrivé ici. J'ai jamais vu des gens qui se battent pour nous. Et ici, à Grutli, déjà, on est comme une grande famille, tu vois.
Il y a de l'émotion, hein, Chab.
Ah, comment ?
Il y a de l'émotion.
Ouais, c'est sûr. Moi, quand je sors, je pars à la mosquée. Il me manque les groupes ici, tu vois. Je vais revenir vite fait pour parler avec eux, pour qu'on être ensemble. Ici, on sent la vie, quoi.
Vous vous sentez exister.
Ouais, c'est ça. T'es un être humain, tu vis. Tu parles avec les autres. Tu peux se réintégrer. Bah, s'ils te mettent dans un PC, comment tu veux que les gens se réintégrent?
Vous allez nous faire pleurer, hein, Chab.
Non, c'est pas ça, mais juste je te dis la vérité, ce que je sens moi-même, tu vois.
Alors, pas question d'aller dans des PC, là, vous n'allez pas lâcher.
Pas question, comment on est réunis ici sous le nom de nos banqueurs et on ne va pas revenir sur notre principe, là, tu vois. Et on va se battre jusqu'à la fin, quand même. Moi-même, je risque d'être, je ne sais pas, d'aller au bled, de me renvoyer...
Au bled, en Tunisie.
Où ils veulent. Ok, je suis là encore.
Il s'est battu aujourd'hui.
À la fin, tu vois. Et le moment où ils veulent me dire, ok, casse-toi. Ok, je vais me battre jusqu'à la fin et après, pas de souci.
Il y a des gens qui viennent vous voir, des gens qui passent, des choses qui se passent avec les citoyens aussi, qui sont sensibles. Moi, j'ai fait quelques interviews, les gens sont quand même très sensibles.
Ouais, si tu viens, si tu passes une journée avec nous, tu vas voir. Tu vas revenir chaque jour et tu vas nous soutenir de tout ce que tu as de force, tu vois. Les gens ici... comme je t'ai dit, ils sont une grande famille, quoi.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si il y a du danger, et ben, ouais, ben moi, je suis avec une hyène.
Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. Libre Radio, la radio antispéciste. www.libradio.org.
Vous avez du poulet ?
Peut-être je vais parler un peu des liens qui s'étaient créés un peu, ça fait là maintenant 2 ans. Et bah, ils sont toujours là et se sont renforcés beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, il y a l'État qui veut casser tous ces liens-là. Qui, bah, je ne sais pas comment ils ont eu cette idée-là. Bah, de toute façon, nous, on peut le lui dire que ça ne va jamais arriver de toute façon. Et le moment du Gretli, c'était, je ne sais pas, un mois de fête, de joie, malgré, bah, je ne sais pas, ce qui nous arrive à ce moment-là, mais c'était pas contrairement à ce qu'ils attendent, quoi. Vraiment, c'était que de la joie, des rencontres, des gens. Bah, malgré qu'on n'a pas gagné avec les bancaires, mais quand même, on a gagné des liens qui bah, vont durer jusqu'à l'infini, peut-être, je crois.
Il y a quelque chose qui a vraiment changé à ce moment-là, quand même. Et puis, en tout cas, quelque chose qui s'est initié pour la suite des luttes.
Ouais,
je veux dire, c'est une espèce de prise de conscience fondamentale pour laquelle...
Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Les gens, ils ont pris conscience que, qu'ils peuvent changer les choses quand on soit ensemble, bah, qu'ils n'hésitent pas de se lancer dans des autres luttes.
Ouais, et puis cette prise de conscience qu'on peut vraiment, très concrètement, là, je veux dire, juste de nouveau, c'était très trivial et très concret d'arriver à nourrir toutes ces personnes-là, à ce que ces personnes-là puissent cohabiter dans des conditions quand même qui sont des conditions précaires. Des gens de la société civile dormaient sur place, ont épousé la cause par la suite et ça a créé... Ben voilà, vous allez nous continuer de nous dire ce qui s'est passé ensuite. Et alors après le Grutli.
Alors durant le, du coup après le Grutli, on a déménagé au Faubourg et du coup c'était vraiment 2 mois d'été. Je pense qu'il y avait 5 manifestations par jour. Je regarde les gens qui étaient là pour que... On confirme ça, des manifestations avec plus d'un millier de personnes, enfin plus de 1000 personnes. Et bref, vraiment un grand mouvement qui a pris beaucoup. Et là, on va écouter maintenant un texte qui s'appelle La Lotta, qui a été écrit par une personne en exil, qui était menacée aussi de bunker, qui était là pendant la lutte. Et que j'ai dû lire moi parce que j'ai enregistré, parce que la personne elle est plus là et puis que voilà, du coup je l'ai évidemment fait avec son accord, mais bref, j'ai introduit dans le texte, je me tais, on peut écouter.
Si je dois lire moi aujourd'hui ce texte, c'est que la personne qui l'a écrit a été frappée par la violence de la répression raciste envers les personnes en exil et a pour cela dû retourner dans son pays d'origine qu'elle avait quitté depuis une quinzaine d'années, soit presque la moitié de sa vie. Voici un texte d'analyse de la situation que cette personne ici appelée MM a rédigé durant la lutte No Bunker de l'été 2015. L'anonymat est une condition nécessaire afin de ne pas voir ses journées être empirées par des répressions policières supplémentaires ou pour ne pas vivre les remarques et menaces des sécuritas des foyers ou bunkers. Je ne peux ici qu'en faire la lecture qui aurait été bien différente s'il avait pu la faire lui, mais on avait tout de même envie de lire ce texte comme il l'a écrit, évidemment avec son accord. La lutte continue et continuera, et rien ne nous arrêtera jusqu'à ce que nous arrivions à un changement total. Nous qui sommes pauvres, selon ceux qui détiennent le pouvoir, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous sommes unis, ensemble, pour un objectif unique, faire comprendre à tous et toutes que le monde est un pays et qu'il n'appartient à personne. C'est maintenant le moment du changement que nous attendons depuis longtemps. C'est le moment de hurler à la face des politiciens et politiciennes qui ont gouverné comme ils et elles le voulaient et à leur manière durant des années. C'est toujours les mêmes choses et rien n'évolue. Nous, migrants, membres du collectif No Bunker, nous ne voulons plus être leurs esclaves. Nous voulons les mêmes droits pour toutes et tous. Nous voulons la liberté, vivre en paix et dans la dignité. Pourquoi un requérant d'asile n'a pas le droit de travailler? Pourquoi n'a-t-il pas le droit de s'intégrer dans le monde social? Personnellement, ces interdictions, je les vois comme des crimes à notre encontre. Les droits des requérants et requérantes d'asile en Suisse. Le droit d'asile est reconnu mondialement, mais ici en Suisse, ce droit n'est qu'un masque. D'un côté, il est vrai que c'est possible d'entrer en Suisse et de demander l'asile. Cela est connu à l'extérieur du pays. Mais de l'autre, les conditions de vie des requérants et requérantes d'asile à l'intérieur de ce pays sont vraiment scandaleuses, arrogantes et criminelles. Parce qu'au fond, nous n'avons pas le droit d'exercer nos droits fondamentaux, comme cela devrait être le cas pour toutes et tous. Nous sommes traités comme des prisonniers, ou pire encore. Nous n'avons ni même le droit de lutter et de participer à des manifestations pacifiques, sinon nous nous faisons arrêter par la police. Je me demande quelle est la différence entre un détenu et un requérant d'asile. Pour ma part, je préfère le premier choix, car au moins dans celui-ci, le fait que nous n'ayons aucun droit est clair, alors que dans la position de requérant d'asile, nous avons l'impression d'être libres, et pourtant c'est tout l'inverse. Nous devons être préparés, avoir des plans et des objectifs communs. C'est comme ça que nous ne reviendrons jamais en arrière. Petit à petit, unis plus que jamais, nous arriverons à notre objectif et rendrons le sourire aux personnes qui en ont réellement besoin. Cela est le but du collectif No Bunker et j'espère que ce collectif n'abandonnera jamais. Signé MM, membre du collectif No Bunker.
Voilà.
Voilà, effectivement, c'est... Ouais. Alors, on continue ?
Bah, peut-être on peut parler un peu de la suite, même si c'est de l'histoire connue, c'est bien de la dire, de ce qui s'est passé à la suite de l'été 2015 et de l'occupation du Grütli puis de la salle du Faubourg. C'est une lutte qui a servi à obtenir l'ouverture d'un foyer. Il y a eu des discussions avec l'État où c'est les membres du collectif qui ont, c'est un peu de bis repetita, mais qui ont montré un endroit vide. C'était le bâtiment ONU-SIDA qui se trouve dans le quartier des Nations et qui est devenu le foyer aujourd'hui qui s'appelle le foyer Appia parce qu'il est sur la route d'Appia. Donc ça, c'est vraiment un bâtiment qui a été pris par la lutte. Mais il y a toujours, et ça, c'est souvent quelque chose qu'on a retrouvé, que j'ai l'impression qu'il se retrouve au fur et à mesure des luttes. Il y a toujours des paradoxes, quelque chose d'un peu amer dans les victoires. Il y a eu des victoires dans toutes ces luttes autour des conditions de vie, mais elles sont toujours récupérées d'une certaine manière par l'État pour qu'on n'en profite pas. Mais voilà, donc il y a toujours un peu deux versants à ces victoires, mais il faut quand même le rappeler. Le foyer Appia, qui aujourd'hui est ouvert et héberge des gens, a été obtenu suite à l'occupation du Grütli et les manifestations et toutes les luttes qui l'ont suivi. Voilà, les personnes qui étaient qui ont participé à l'occupation et l'expulsion des TAT, elles, il faut le dire aussi, elles ont été renvoyées, réprimées ou sont retournées dans les bunkers. Quelque chose auquel l'État tenait, c'était qu'elles n'aillent pas. Parmi les propositions qui ont été faites de relogement, c'était un relogement chez l'habitant. Et ça, c'est quelque chose que l'État a refusé catégoriquement en disant « Non, on ne veut surtout pas ça parce que vous allez tisser des liens au moment où ils seront renvoyés. » Ils nous l'ont dit texto. C'est le moment aussi où les autorités policières où Pierre Maudet a intervenu pour attaquer le mouvement par voie de presse etc. Donc ça a été des victoires mais aussi des défaites. Il y a eu quelque chose d'un peu ambigu, un peu ambivalent, et on le retrouvera plus tard dans d'autres luttes. Mais je me tais et on écoute un petit montage qui relate ce moment, donc fin de l'été 2015, obtention du foyer Appia.
Partons du côté de Genève, où les requérants d'asile qui refusaient de dormir dans des abris de la protection civile ont eu gain de cause. Près de 200 d'entre eux pourront loger dans les anciens locaux de ONU-SIDA, qui seront libérés le 1er septembre. C'est ce qu'a annoncé l'Hospice Général. Aujourd'hui, d'autres projets devraient aboutir d'ici la fin de l'année, le temps de procéder à des travaux pour accueillir les requérants. Mauro Poggia est conseiller d'État chargé de l'emploi et des affaires sociales dans le canton. Nous lui avons demandé s'il avait cédé à la pression du collectif No Bunkers, qui milite depuis le mois de juin pour de meilleures conditions de logement des requérants.
Écoutez, je ne peux pas entendre ce que vous dites. Victoire pour No Bunkers. Je crois que le collectif a simplement dénoncé une problématique qui était connue de l'État depuis déjà longtemps. Et le fait que No Bunkers ait dénoncé une situation a peut-être pu accélérer le travail de certains services. Écoutez, je ne peux pas entendre ce que vous dites. A peut-être pu accélérer le travail de certains services. Victoire pour No Bunkers. Je crois que... Écoutez, je ne peux pas entendre ce que vous dites.
Voilà, malheureusement le temps presse parce qu'on arrive à la fin apparemment de l'émission. Ce qu'on entend, on aimerait encore parler de la lutte qu'il y a eu un an plus tard en 2016 au foyer Franck Thomas parce qu'elle nous parle beaucoup, notamment à Malagnou, parce que ça montre bien aussi à nouveau que les politiques de soi-disant crise d'hébergement, etc. sont voulues par l'État et résultent de l'inaction des autorités. Franck Thomas, très rapidement, c'est un foyer de l'Hospice Général où il y a une annonce de fermeture au printemps. On a dit à toutes les personnes, vous devez partir. Vous pourrez aller, paradoxe, au foyer Appia, certains d'entre vous, mais vous perdrez votre chambre individuelle, vous perdrez une péjoration des conditions d'existence. Et ceux qui ne sont pas contents, en gros, ils iront soit à la rue, soit au bunker. Il y a une lutte des habitants aussi, qui sont à nouveau mobilisés, à nouveau avec des soutiens, où le foyer a pu être conservé. Il y a eu une rénovation qui a été faite suite à cette mobilisation pour que le soyer soit exploité 4 ans. Mais à nouveau, l'ambivalence, c'est que l'État, et c'est toujours le problème qui est en cours, refuse de réintégrer. Le foyer a dû être rénové, donc les habitants qui ont lutté ont dû le quitter temporairement, et aujourd'hui, ils refusent de les réintégrer. On va écouter un petit montage où on réentend le politicien qui était M. Poggia, qu'on entendait déjà avant, où il est forcé, il n'aime pas à mon avis ce moment-là, quand il est forcé de reconnaître que les mouvements sociaux ont obtenu des choses par la lutte.
Les déménagements reprennent au foyer Franck Thomas aux Eaux-Vives. Les 46 requérants du foyer devront quitter les lieux avant le 30 juin. 9 d'entre eux ont reçu un courrier les sommant de déménager au centre Appia entre mardi et aujourd'hui. Fin mai, l'État avait suspendu ces déménagements. En cause, des incertitudes quant au sort réservé au terrain dans le cadre des travaux du CEVA.
Nous avons pu établir qu'effectivement les lieux doivent être libérés de toute habitation pour la fin de l'année impérativement. Et je considère que la décision de l'Hospice Général de le faire en été plutôt qu'en automne, sachant que nous aurons certainement à faire face à un afflux de réfugiés cet été qui, eux, vont être placés en priorité dans des logements en surface, eh bien, il était préférable de le faire maintenant parce qu'en automne, nous aurions certainement été obligés de placer les personnes qui sont à Franck Thomas dans des abris PC, ce qui aurait été particulièrement durement ressenti par ces personnes.
Le collectif Perse Frontières accuse cette décision et dénonce un chantage au bunker. Selon eux, la parcelle ne sera pas touchée avant 2019 et ne servira qu'à entreposer le matériel des chantiers d'ici là. Le foyer n'étant plus aux normes, il encourage l'État à investir dans des rénovations.
Les résidents du foyer Franck Thomas étaient en première ligne ce midi devant le bâtiment de l'Hospice Général à Rives. Derrière, associations et politiques distillent les revendications aux médias. Ils continuent à dénoncer des expulsions illégales. Ils exigent l'ouverture de négociations.
Par rapport à ce qui est de la possible négociation sur la prolongation de l'exploitation du centre, nous ne pouvons pas entrer en matière sur cette prolongation dans la mesure où cette décision nous a été notifiée par un service de l'État. Dans la mesure où ce service a besoin du chantier, de la parcelle pour faire place au chantier du CEVA, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous y opposer et donc nous devons fermer ce centre.
Nous ne pouvons pas.
Les résidents du foyer Franck Thomas doivent quitter les lieux aujourd'hui. Un rassemblement de soutien aux habitants est prévu ce soir.
Le foyer Franck Thomas, qui accueille des requérants d'asile, pourrait bien ne pas être démoli après tout. Les expulsions, qui avaient commencé mi-mai, puis qui ont été suspendues, avaient repris en juin dernier. La parcelle devait être réquisitionnée dans le cadre des travaux du CEVA, pour créer une route d'accès au chantier. L'utilisation du foyer pourrait être prolongée pour quelques années, moyennant des travaux et la création d'une voie d'accès différente au chantier. Une forte mobilisation s'était organisée autour du foyer, notamment grâce au collectif Perse Frontières.
Je crois qu'il ne faut pas minimiser le rôle du associatif dans ces domaines. Je le regrette personnellement. Je pense que la créativité devrait faire partie de l'activité constante de l'ensemble des entités publiques. Ma foi, je pense que si des mobilisations peuvent susciter ce genre de réaction, je ne peux que m'en réjouir.
Voilà, comme on arrive doucement au terme de l'émission, il nous reste 7-6 minutes. Eh bien, Lou, tu vas essayer, tu vas tenter l'exercice de la synthèse.
Voilà, exactement.
De ces luttes en faveur et avec les personnes.
Voilà. Du coup, on a pu voir au début de l'émission, une démonstration, l'analyse des conditions de vie des personnes dans les foyers, dans les bunkers, la répression subie par les personnes en exil. On a pu observer ensuite toutes les luttes qui avaient été menées contre cette situation, contre ce système au final hyper violent qui s'abat sur les personnes en exil qui évidemment ne sont pas de simples victimes et résistent fortement à ces conditions avec toute la pression existante hein, qu'on a vu avec le changement qu'on doit faire, anonymat, changement des voix, tout ça, parce que voilà, c'est des choses qu'on a observées dans les luttes. On voit du coup des victoires qui ont été reçues, la victoire dont H parlait avant, qui est cette victoire de solidarité en fait, de voilà, l'isolement a été brisé, c'est bon, les liens sont quand même maintenant très présents et très forts pour certains. On a vu la victoire aussi de voilà du foyer Franck Thomas, l'obtention des bunkers. C'est quand même des promesses des politiciens qui ont été faites, qui ont été dites et évidemment on les oubliera pas, mais ils s'en doutent bien. Et du coup, on compte bien revenir à chaque fois sur là-dessus. C'est sûr que rien n'est jamais fini. Hein. C'est un système, donc s'attaquer à des situations particulières, ça ne le résout pas en entier. Mais c'est bien la tâche qu'ont eu toutes ces luttes et qu'elles ont réussi. Moi, je trouve trop trop belle et trop bien. Quoi. Et puis voilà, maintenant on va peut-être passer un peu sur une conclusion, revenir un peu sur Malagnou, qu'est-ce que c'est ce lien Malagnou, personne en exil, et puis pour ça je laisse la parole à H. Ah,
peut-être je peux finir par dire que l'État elle veut nous faire croire qu'elle résoudra un peu le problème des personnes en exil en les logeant ici, mais par contre non, elle nous ramène à notre problème en mettant des autres gens... c'est le collectif de Malagnou dans la rue, tout ça, c'est pas peut-être pour que la maison, les collectifs de la maison de Malagnou cessent d'avoir encore des liens avec des personnes en exil et encore ramener des autres luttes, mais de ma place, je peux rien dire que Malagnou restera, on va lutter pour ça, quoi, on va rien laisser. Quoi.
Et puis, oui, juste ajouter aussi que c'est aussi cette farce qu'on a eu envie de démontrer là en montrant aussi toutes ces luttes sur les luttes contre le système migratoire. C'est aussi de dire qui a mis en avant les problèmes des conditions de vie. Bon, c'est les personnes elles-mêmes qui ont démontré que leurs conditions de vie n'étaient juste pas acceptables. Et ensuite, qui a soutenu, qui les a entendues, qui a bien voulu lutter avec elles, évidemment d'une manière différente qu'elles-mêmes. Eh ben c'est pas l'État, eh ben c'est pas le SPIS, évidemment. Et voilà, et l'État va pas nous faire croire aujourd'hui qu'en 2017, par hasard, les foyers, des conditions dignes, ça devient un aspect important pour eux, parce que tout à coup, ils seraient devenus, je sais pas. Non, on n'y croit pas, et c'est pas vrai, et on le sait.
Est-ce que c'est le mot de la conclusion ?
Ça me semble bien.
C'est,
ouais.
C'est vrai qu'on arrive vraiment au terme. On va juste rappeler encore l'été. L'été, le prochain thé, la prochaine occasion de se rencontrer, ce sera le mercredi 10 mai à 18h30 au foyer d'Appia, justement, avenue Appia 11, arrêt de bus OMS. Et puis, dire encore que les informations concernant Malagnou se trouvent sur le blog malagnou.noblogs.org. Et puis qu'on vous remercie beaucoup de nous avoir reçus, hein, que nous, on revient quand vous nous dites. Carl, Josette, H et Lou, merci beaucoup à vous. Nous, on salue toute l'équipe évidemment de Libre Radio et puis de Fréquence Banane. Et que nous, on se retrouvera, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine. Un petit mot de la fin.
Oui, merci mille fois à vous, Libre Radio, d'avoir avoir permis de nous exprimer là-dessus. Aussi par rapport à l'information, je pense que renversé.co permet vraiment aussi d'avoir et des informations sur Malagnou et des informations sur l'été et sur les manifs et sur tout ça. Et du coup, voilà, ça vaut aussi le coup d'aller jeter un coup d'œil.
Voilà, c'est fini pour nous. On rend. Ciao.
Seul. Merde de chien dans le couloir, merde de chat par-ci par-là. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. crois enfin que tu t'en sors quand y'en a plus belle encore. On avait dit ouvert d'esprit, résultat on n'a plus d'amis. On avait dit communication, résultat tout se passe à la maison. On avait dit non mixité, mais ça paraît trop compliqué. Et là tu cries encore plus fort et ça persiste, alors on faille. Je veux faire la révolution, mais je sais pas comment faire. Je t'écoute, je suis dégoûtée de sortir dehors et une fois.